Bernd Kells ne revint pas cette nuit-là, ce qui était une bonne chose. Quoique résolu à monter la garde, Tim n'était qu'un petit garçon, très fatigué de surcroît.
« Je vais fermer les yeux quelques secondes pour me reposer un peu »,
se dit-il en s'allongeant sur la paillasse qu'il s'était aménagée derrière la porte. Et il lui sembla bien que quelques secondes à peine s'étaient écoulées, mais lorsqu'il les rouvrit, le cottage était inondé de lumière matinale. La hache de son père gisait près de lui, là où sa main l'avait lâchée. Il la ramassa, la passa à sa ceinture et se précipita dans la chambre de sa mère. La veuve Smack dormait dans le fauteuil à bascule de Tavares qu'elle avait rapproché du lit de Nell, et son voile frémissait sous ses ronflements. Nell avait les yeux grands ouverts et elle les tourna vers Tim en entendant ses pas.
« Qui est là ?»« C'est moi, maman. »
Il s'assit tout près d'elle.
« Est-ce que tu vois quelque chose ? Même un peu ?»
Elle tenta de sourire, mais ses lèvres tuméfiées pouvaient à peine bouger.
« Tout est noir. J'en ai peur. Ce n'est rien. »
Il prit sa main valide et l'embrassa.
« Il est sans doute trop tôt. »
Leur voix avait réveillé la veuve.
« Il dit vrai, Nell. » Aveugle ou pas, nous serons chassés de chez nous l'année prochaine. Et que nous arrivera-t-il alors ? »
Elle se tourna vers le mur et se mit à pleurer. Tim jeta un coup d'œil à la veuve, ne sachant comment réagir. Elle lui fit signe de sortir.
« Je vais lui donner quelque chose pour la calmer. J'ai ça dans mon sac. Toi, tu dois aller voir certains bûcherons. Dépêche-toi avant qu'ils aient gagné la forêt. »
Peut-être aurait-il raté Peter Cossington et Ernie Marshley si Gash Anderson, le fermier le plus prospère de l'arbre, ne s'était pas arrêté devant la remise des deux hommes tandis qu'ils attelaient leurs mules avant de partir. Tous trois l'écoutèrent dans un silence pesant. Et lorsqu'il acheva son récit d'une voix tremblante, en précisant que sa mère était toujours aveugle ce matin, Peter le costaud l'agrippa par les bras et lui dit « « Tu peux compter sur nous, mon gars. Personne n'ira couper d'arbres aujourd'hui. On va rassembler tous les bûcherons du village, ceux qui travaillent les florus comme ceux qui travaillent les arbres de fer. »«
Et je vais envoyer mes gars prévenir les autres fermiers, » ajouta Anderson, « ainsi que Rupert Venn à la scierie. »
« Et le gendarme ?»
demanda Ernie le Lambin d'un air inquiet. Gash Anderson baissa la tête, cracha par terre et s'essuya le menton du revers de la main.
« Il est parti à Tavares, c'est ce qu'on m'a dit, soit pour traquer les braconniers, soit pour aller lutiner sa bonne femme. Aucune importance, Howard Tasley ne vaut même pas un pet dans un coup de vent. On va s'occuper nous-mêmes de Kells et on l'aura jugé avant le retour de ce bon à rien.
Et s'il veut faire le malin, on lui cassera les bras. »
renchérit Cossington. « Ce type est incapable de tenir l'alcool comme de garder son calme. C'était encore supportable quand Jack Ross était là pour le surveiller, mais regardez ce que ça a donné. Il a tellement sonné cette pauvre Nell qu'elle en a perdu la vue. Le grand Kells n'a jamais cessé de la convoiter, et le seul qui ne s'en rendait pas compte, c'était... »
Anderson le fit taire d'un coup de coude, puis se tourna vers Tim, se penchant vers lui en se calant les mains sur les genoux.
« C'est le collecteur qui l'a trouvé ?»«
Si fait. »«
Et tu as vu le corps de tes propres yeux ?»
Tim sentit monter les larmes, mais sa voix ne tremblait pas.
« Si fait. Je l'ai vu. »«
Dans notre concession, » dit Ernie le Lambin, « au bout d'un de nos chicots, celui où le Pookie a fait son nid. »«
Si fait. »
« Rien que pour ça, je suis prêt à le tuer, » dit Cossington. « Mais nous le ramènerons vivant, si c'est possible. Ernie, avant de se mettre à la recherche de ce salopard, toi et moi, on ferait mieux d'aller là-bas pour apporter le... la dépouille. Gash, tu peux passer le mot alentour ?»«
Ouais, on va se rassembler à l'épicerie. Faites attention au cas où il rôderait dans la forêt, mais je suis sûr qu'on le trouvera au village complètement cuit. »
Il ajouta comme s'il s'adressait à lui-même.
« J'ai jamais avalé cette histoire de dragon. »
« Commencez par regarder derrière le saloon, » dit Ernie le Lambin.
Plus d'une fois, il s'est retrouvé à Cuvella.
Et c'est ce qu'on va faire, dit Anderson en levant les yeux vers le ciel. Il fait un drôle de temps, je trouve. Bien trop chaud pour la terre vide. J'espère qu'on n'aura pas de tempête, ou pire, de coups de givre. Ce serait le bouquet. Personne ne pourrait payer le collecteur l'année prochaine. Quoique, si le garçon dit vrai, il nous aura permis d'éliminer une brebis galeuse, et c'est là un signalé service.
Sauf qu'il n'a pas rendu service à ma maman, se dit Tim. S'il m'avait pas donné cette clé, et si je m'en étais pas servi, elle serait pas aveugle.
Rentre à la maison maintenant, lui dit Marshley, gentiment, mais sur un ton qui n'admettait aucune discussion. Arrête-toi chez moi en chemin, veux-tu, et dis à ma femme qu'on a besoin d'elle et de ses amis chez toi. La veuve Smack mérite un peu de repos, car elle n'est ni jeune ni en bonne santé. Et puis, soupir, dis-lui aussi qu'on aura besoin d'elle à la chapelle de Stocks plus tard dans la journée.
Tim montait Misty, qui avait tendance à vouloir goûter à chaque arbuste. Lorsqu'il rentra enfin chez lui, deux chariots et une calèche l'y avaient précédé, chacun transportant deux femmes impatientes d'aider sa mère dans son épreuve. À peine avait-il attaché Misty près de Bitsy, qu'Ada Cossington sortit sur le perron pour lui demander de reconduire la veuve Smack chez elle.
« Tu peux prendre ma calèche. Fais attention au nid de poule, car elle ne tient plus debout. »« Elle fait une crise de tremblotte, ça y est ?» Non, la malheureuse est trop épuisée pour trembler, je crois bien. Elle était là quand on avait besoin d'elle, et peut-être a-t-elle sauvé la vie de ta maman. Ne l'oublie jamais. Est-ce que ma mère a retrouvé la vue, même un tout petit peu?
Tim devina la réponse à la tête que faisait Cy Cossington.
Pas encore, mon garçon. Tu ferais mieux de prier.
Tim eut envie de lui citer un des dictons préférés de son père. Prie pour avoir de la pluie, mais creuse pour avoir un puits. Il préféra n'en rien faire. Il mit du temps à ramener la veuve chez elle, retardé par son petit âne qu'il avait attaché à l'arrière de la calèche d'Ada Cossington. Il régnait toujours une chaleur hors saison, et plus un souffle de vent ne venait de la forêt sans fin. La veuve tenta de lui remonter le moral, mais elle retomba bien vite dans le silence. Tim la soupçonnait de n'être pas dupe de son propre optimisme. Arrivé à mi-parcours, il entendit un gargouillis sur sa droite. Il sursauta puis se détendit. La veuve s'était assoupie, le menton sur son torse menu. L'ourlet de son voile reposait sur son giron. Lorsqu'ils firent halte devant sa maison, sise à l'extérieur du village, il lui proposa de l'y accompagner.
« Non !» « Aide-moi à monter les marches et ça ira. Un bon bol de thé au miel et ensuite au lit. Je suis épuisé. Retourne auprès de ta mère, Tim. Je sais que la moitié des commères du village seront à son chevet, mais c'est de toi qu'elle a besoin. »
Pour la première fois en 5 ans depuis qu'il suivait ses cours, elle la serra dans ses bras. Une étreinte brève et vigoureuse. Il sentit son corps vibrer sous la robe. Elle avait encore la force de trembler, après tout, et elle n'était pas épuisée au point de refuser de réconforter un petit garçon, fatigué, furieux et profondément désemparé, qui en avait bien besoin.
« Va la voir, et ne t'approche pas de cet homme noir si jamais tu le revois. » Du chapeau aux bottes, il est tissé de mensonges, et sa bonne parole n'apporte que des larmes.
Sur le chemin du retour, dans la grand-rue, il croisa Willem les Blés et son frère Hunter, dit la tache, à cause de ses taches de rousseur, qui rejoignaient la posse sur la route de l'arbre.
« Ils vont fouiller toutes les concessions et tous les chicots de la forêt !» dit Hunter la tache, tout excité. « On le retrouvera !»
Ainsi, Kels avait disparu du village, semblait-il. Tim sentait qu'on ne le retrouverait pas dans la forêt. Cette impression n'était en rien fondée, mais il n'en démordait pas. En outre, il en était persuadé, le collecteur n'en avait pas fini avec lui. L'homme à la cape noire s'était déjà bien amusé, mais il avait d'autres tours dans son sac. Sa mère dormait, mais elle se réveilla lorsque Ada Cossington le fit entrer. Les autres visiteuses avaient pris place au salon, mais elles n'étaient pas restées oisives durant son absence. Le garde-manger s'était rempli comme par miracle, toutes les étagères ployées sous les sacs et les bocaux. Et bien que Nell n'ait rien d'une mauvaise ménagère, jamais Tim n'avait vu sa maison aussi propre, jusqu'aux poutres qu'on avait nettoyées de leur suie. Toutes les traces de Bernkel s'étaient oblitérées. On avait remisé l'horrible malle sous le perron de l'arrière-cour, où elle tenait compagnie aux araignées, aux mulots et aux crapauds.
Tim ?
Elle poussa un soupir de soulagement lorsqu'il nicha ses mains dans les siennes.
Ça va ?
Si fait, maman, ça va bien.
Il mentait et tous deux le savaient.
Nous savions qu'il était mort, n'est-ce pas ? Mais ça ne nous console pas. C'est comme si on venait de le tuer une nouvelle fois.
Des larmes coulèrent de ses yeux aveugles. Tim lui aussi se mit à pleurer, mais il réussit à le faire en silence. Si elle l'entendait, ça lui ferait de la peine.
Ils vont l'emmener dans la petite chapelle que Stokes a aménagée derrière sa forge, reprit-elle. La plupart de ces dames si aimables iront là-bas pour faire le nécessaire. Mais je voudrais que tu y ailles aussi, Timmy. Veux-tu lui témoigner tout ton amour et tout le mien ? Car je ne le puis. L'homme que j'ai eu la bêtise d'épouser m'a tellement estropié que je peux à peine marcher, sans compter que je n'y vois plus rien, évidemment. Quel camé j'ai été ! De quel prix nous avons payé ?
Chut ! Je t'aime, maman. Oui, je vais y aller.
Comme il disposait d'un peu de temps, il se retira dans la grange. Il y avait trop de femmes dans le cottage à son goût, beaucoup trop de femmes. S'enveloppa dans une couverture pour mule et se coucha dans le foin. Il s'endormit presque aussitôt. Vers 3 heures de l'après-midi, Peter le costaud vint le réveiller, le chapeau bas et le visage figé d'un air triste et solennel. Tim s'assit en se frottant les yeux.
« Vous avez trouvé Kells ?»«
Non, mon gars. » Mais on a trouvé ton père et on l'a ramené en ville. Ta mère dit que c'est toi qui lui rendras hommage pour vous deux. Elle dit vrai ?
Si fait.
Tim se leva et pousta sa chemise et sa culotte. Il avait honte qu'on l'ait surpris en train de dormir, mais il ne s'était guère reposé durant la nuit, où les cauchemars l'avaient tourmenté.
Eh bien, on va prendre mon chariot.
Le local, si derrière la forge, était ce qui se rapprochait le plus au village d'une chapelle funéraire. En ces temps où la plupart des gens préféraient s'occuper eux-mêmes des leurs et les enterrer dans leur lopin, sous une croix de bois ou une pierre grossièrement taillée. Dustin Stokes, dit la braise, se tenait devant la porte, vêtu d'une culotte blanche en lieu et place de son pantalon de cuir. Il avait passé une chemise blanche trop grande de plusieurs tailles qui lui descendait jusqu'aux genoux et faisait penser à une robe. En le voyant, Tim se rappela qu'on était censé se vêtir de blanc en l'honneur des morts. Ce détail lui fit prendre conscience de la réalité des choses, là où la vision des yeux vitreux de son père n'y était pas parvenue. Et il sentit ses jambes se dérober. Peter le costaud l'empêcha de tomber.
« As-tu la force de faire ceci, mon gars ? Y a pas de honte à avouer ta faiblesse. C'était ton pas et je sais que tu l'aimais, comme nous tous. »«
Ça ira, »
dit Tim. Il avait peine à respirer et sa voix n'était qu'un murmure. Stokes la braise porta le poing à son front et s'inclina. C'était la première fois de sa vie que Tim était salué par un adulte. « Heil, Tim, fils de Jack. » Son cas est parti dans la clairière, mais ce qui reste de lui est ici. Veux-tu venir le voir ?
Oui, s'il vous plaît.
Peter le costaud resta en retrait, et ce fut Stokes qui prit le bras de Tim. Stokes, tout en blanc et non en cuir, comme lorsqu'il pestait en jouant du soufflet à sa forge. Stokes, qui le conduisit dans la petite pièce avec des arbres peints sur les murs. Stokes, qui le mena devant la bière en bois de fer placée au centre. Cet espace ouvert qui, de tout temps, avait représenté la clairière au bout du sentier. Le grand Jack Ross était également vêtu de blanc, mais sa tenue se résumait à un linceul de lin. Ses yeux sans paupières semblaient fascinés par le plafond. Son cercueil était posé contre un mur et un parfum âcre, mais plaisant, embaumait les lieux. Car il était lui aussi en bois de fer et conserverait sa pauvre dépouille pendant plus d'un millénaire. Stokes lâcha le bras de Tim qui s'avança seul. Il s'agenouilla. Il glissa une main sous le linceul et trouva la main de son pas. Elle était froide. Mais Tim n'hésita pas à entrelacer leurs doigts, le vif saisissant le mort. C'était ainsi que tous deux se tenaient par la main lorsque Tim était tout petit et à peine capable de trottiner. En ce temps-là, l'homme qui marchait à ses côtés lui apparaissait comme un géant, un immortel. Tim s'agenouilla devant la bière et contempla le visage de son père. En ressortant, il vit avec surprise que le soleil était déjà bas dans le ciel et comprit que plus d'une heure avait passé. Près du tas de cendres derrière la forge, Cossington et Stokes fumaient les cigarettes qu'ils venaient de rouler. Toujours pas de nouvelles du grand Kells.
Peut-être qu'il s'est jeté dans la rivière pour s'y noyer, spécula Stokes. Monte sur mon chariot, fiston. « dit Cossington. Je vais te ramener chez ta maman. »
Mais Tim fit non de la tête.
« Grand merci, mais je vais rentrer à pied si ça ne vous dérange pas. »«
T'as besoin de réfléchir, c'est ça ? Eh ben, vas-y, je vais rentrer chez moi. Le dîner sera froid, mais je le mangerai avec joie. Nul ne fera de reproche à ta maman en un moment pareil, Tim. Jamais de la vie. »
Tim eut un pauvre sourire. Cossington monta sur son chariot, en saisit les rênes, puis se pencha vers Tim d'un air pensif.
« Fais attention au cas où Kells rôderait dans les parages. Quoique, tu risques pas de le croiser tant qu'il fera jour. Et ce soir, il y aura deux ou trois solides gaillards postés devant chez toi. »«
Merci, Sai. » »«
Inutile de me remercier. Et appelle-moi Peter, mon gars. T'es assez grand pour le faire, et c'est ce que je souhaite. »
Il se pencha encore pour lui étreindre la main.
« Je suis navré pour ton pas. Horriblement navré. »
Lorsque Tim s'engagea sur la route de l'arbre, le soleil rouge sombrait dans le ciel à sa droite. Il se sentait vide, vanné, et cela valait peut-être mieux, du moins pour le moment. À présent que sa mère était aveugle et qu'il n'y avait plus d'homme pour faire vivre la maisonnée, leur avenir s'annonçait des plus sombres. Les autres bûcherons feraient de leur mieux pour les aider, et ce le plus longtemps possible, mais chacun d'eux avait une famille à nourrir. « La terre est le garant de la liberté », disait toujours son père. Mais Tim comprenait à présent que la place d'un homme en ce monde, que ce soit un lopin, un cottage ou une ferme, ne garantissait rien. Car le collecteur reviendrait l'année prochaine, l'année suivante et toutes les autres, armé de son parchemin plein de noms. Soudain, Tim fut pris de haine pour Gilead la lointaine, qui lui était toujours apparue, lorsqu'il y pensait, c'est-à-dire rarement, comme un lieu de rêve et de merveille. Sans Gilead, il n'y aurait pas de taxes, alors il serait vraiment libre. Il vit un nuage de poussière s'élever au sud. Les feux du soleil le transformèrent en brasier brumeux. C'étaient sûrement les femmes qui s'étaient rendues au cottage. Leurs chariots et leurs calèches gagnaient la chapelle de fortune qu'il venait de quitter. Elles nettoieraient le corps déjà lavé par l'eau vive où il avait reposé. Elles loindraient d'huile. Elles placeraient dans la main droite du mort un morceau d'écorce de bouleau où seraient gravés les noms de sa femme et de son fils. Elle dessinerait un point bleu sur son front et le coucherait dans son cercueil. Stokes Labraise clouerait le couvercle à coups secs et répétés de son marteau, et chaque coup serait plus terrible parce que plus définitif. Animées des meilleures intentions du monde, les femmes de l'arbre étoufferaient Tim sous leurs condoléances, mais il n'en voulait pas. Sans doute serait-il incapable de supporter cela sans s'effondrer une nouvelle fois. Il en avait marre de pleurer. Sa décision prise, il quitta la route pour couper jusqu'au petit ruisseau du nom de Stape, afin de le remonter jusqu'à sa source, située entre le cottage et la grange des Ross. Il marchait comme dans un rêve. Pensait au collecteur, puis à la clé, qui ne servait qu'une fois, puis au Pookie, puis aux mains de sa mère tendues vers le son de sa voix. Tim était si préoccupé qu'il faillit ne pas voir l'objet planté au milieu du sentier qui sinuait au bord du ruisseau. C'était une tige d'acier s'achevant sur un bout en ivoire. Il s'accroupit devant, les yeux écarquillés. Il se rappelait avoir demandé au collecteur s'il s'agissait d'une baguette magique, et l'autre lui avait répondu par cette phrase énigmatique.
« Jadis, c'était le levier de vitesse d'une Dodge Dart. »
Pour l'enfoncer ainsi dans la terre sur la moitié de sa longueur, il fallait avoir beaucoup de force. Tim tendit la main, hésita, puis s'ordonna de ne pas être stupide. Ce n'était pas un Pookie qui le paralyserait de ses crocs avant de le dévorer vivant. Il sortit la baguette de sa gangue et l'examina. C'était bien de l'acier, de cet acier que seuls les anciens étaient capables de fabriquer. Un objet de valeur, certes, mais était-il magique? On aurait dit un bout de métal ordinaire, c'est-à-dire froid et inerte.
« Dans de bonnes mains, » avait chuchoté le collecteur, « n'importe quel objet peut devenir magique. »
Sur l'autre berge du ruisseau, Tim aperçut une grenouille sautillant sur un bouleau abattu. Il pointa sur elle le bout en ivoire et prononça le seul mot magique qu'il connaissait.
« Abacadabra !»
Il s'attendait à la voir tomber raide morte ou se transformer en... eh bien, en quelque chose. Rien de tel ne se produisit. D'un bond, la grenouille sauta dans les hautes herbes et disparut à la vue. On avait laissé cette baguette ici, à son intention, il en était sûr. Le collecteur savait qu'il passerait par là, et à quel moment. Tim reprit la direction du sud et vit un éclair rouge. Cela venait d'un point situé entre leur cottage et la grange. L'espace d'un instant, il fixa sans rien dire ce reflet écarlate. Puis il se mit à courir. Le collecteur lui avait laissé la clé. Le collecteur lui avait laissé sa baguette. Et à côté de la source où il prenait leur eau, il avait laissé sa bassine en argent. Celle qui lui servait à voir. Sauf que ce n'était pas la bassine. Ce n'était qu'un seau en fer blanc tout cabossé. La tête basse, Tim se tourna vers la grange et songea qu'il avait le temps de nourrir les mules avant de rentrer. Puis il fit halte et se retourna. C'était un seau, oui, mais ce n'était pas leur seau. Le leur était en bois de fer avec une anse en bois de Florus. Tim rebroussa chemin et ramassa sa trouvaille. Il pointa le bout en ivoire de la baguette du collecteur et en tapota le seau. Le son ainsi produit était si grave qu'il recula, surpris. Jamais il n'avait entendu du fer blanc résonner de cette manière, et maintenant qu'il y pensait, jamais il n'en avait vu refléter le soleil couchant avec un tel éclat.
« Crois-tu que j'allais faire cadeau de ma bassine en argent à un avorton comme toi, Tim, fils de Jack? Pourquoi l'aurais-je fait, puisque tout objet peut devenir magique? D'ailleurs, à ce propos, ne t'ai-je pas laissé en cadeau ma propre baguette magique ?»
Tim savait que la voix du collecteur était sortie de son imagination. Mais il estimait que l'homme en noir lui aurait tenu semblable discours s'il s'était trouvé devant lui. Puis une autre voix résonna dans son crâne.
« Du chapeau aux bottes, il est tissé de mensonges, et sa bonne parole n'apporte que des larmes. »
Il la chassa de son esprit et se pencha pour remplir d'eau le seau qu'on lui avait laissé. Cela fait, le doute l'envahit à nouveau. Il chercha à se rappeler quel type de passe le collecteur avait faite au-dessus de l'eau. Les passes mystiques n'étaient-elles pas essentielles à la magie? Et n'y parvint pas. Tout ce qu'il avait retenu, c'est qu'il ne verrait rien si jamais il troublait l'eau. De plus en plus sceptique sur les capacités de la baguette, sans parler des siennes propres, Tim l'agita un peu au hasard au-dessus de l'eau. Pendant quelques instants, il ne se passa rien. Il allait renoncer lorsqu'un nuage de brume brouilla la surface, effaçant son reflet. Puis ce nuage se dissipa, révélant le collecteur qui le fixait des yeux. Il faisait noir là où il se trouvait, mais une étrange lueur verte, pas plus grosse que l'ongle du pouce, flottait au-dessus de sa tête. Elle s'éleva, permettant à Tim de découvrir un écriteau cloué à un arbre de fer. Il portait l'inscription « Ross Kells ». La lueur verte monta en spirale jusqu'à frôler la surface de l'eau et Tim poussa un hoquet. Il y avait quelqu'un à l'intérieur de cette lueur verte. Une minuscule femme verte avec dans le dos des ailes transparentes. C'est une cygue, une fée. Une fois assurée d'avoir attiré son attention, la cygue alla se poser un instant sur l'épaule du collecteur, puis sembla s'en éloigner d'un bond. À présent, elle flottait entre deux poteaux auxquels était fixée une barre transversale. Il y était accroché un autre écriteau. Et tout comme sur le premier, Tim reconnut l'écriture soignée de son père. « Fin de la piste du bois de fer », disait l'inscription. « Ici commence le fagonard. En dessous, en lettres grasses, « Voyageur, prends garde. » La cygue retourna en hâte auprès du collecteur, tourna deux fois autour de lui, laissant dans l'air un sillage d'un vert lumineux qui s'effaça presque aussitôt, puis remonta près de sa joue et s'immobilisa. Le collecteur fixa Tim du regard, et ce dernier remarqua qu'il chatoyait, ainsi que l'avait fait son père lorsqu'il avait découvert son cadavre dans le ruisseau, mais qu'il était parfaitement réel, comme tout proche de lui. Il leva la main pour décrire un demi-cercle au-dessus de sa tête, mimant une paire de ciseaux avec l'index et le médius. C'était un signal que Tim connaissait bien, car tous les habitants de l'arbre l'utilisaient de temps à autre. « Dépêche-toi, dépêche-toi !» Le collecteur et sa féerique compagne s'estompèrent, laissant Tim face à son propre reflet et Bobby. Il refit passer la baguette au-dessus de l'eau, remarquant vaguement qu'elle vibrait dans son poing. La mince couche de brume réapparut, comme surgie de nulle part. Puis elle tournoya et disparut. Tim découvrit une grande maison avec plein de pignons et de cheminées. Elle se dressait dans une clairière entourée d'arbres de fer d'une telle taille, d'une telle hauteur, que ceux qui bordaient la piste paraissaient ridicules en comparaison.
« Leur fête doit percer les nuages, » songea-t-il.
Il comprit que ce lieu devait se trouver au cœur de la forêt sans fin, là où même le plus hardi des bûcherons de l'arbre n'était jamais allé. Les nombreuses fenêtres de la maison étaient décorées de signes cabalistiques, et il en déduisit qu'il s'agissait de la maison de Merlin, où le temps était figé, voire s'écoulait à l'envers. Un petit Tim ondoyant apparut dans le seau. Il s'approcha de la porte et y toqua. Sortit un vieil homme souriant à la longue barbe blanche scintillante de joyaux. Il était coiffé d'un chapeau conique aussi jaune que le soleil de la pleine terre. Tim dans l'eau palabra avec Merlin dans l'eau. Ce dernier s'inclina et retourna dans sa maison, qui semblait changer de forme en permanence. Mais peut-être était-ce un effet des rides de l'eau. Lorsqu'il revint, le mage tenait un morceau de tissu noir, sans doute de la soie. Il le porta à ses yeux comme pour expliquer à quoi il servait. C'était un bandeau. Puis, il le tendit à Tim dans l'eau, mais avant que celui-ci ait pu l'attraper, la brume refit son apparition. Lorsqu'elle se dissipa, Tim découvrit à nouveau le reflet de son visage, au-dessus duquel filait un oiseau qui devait être pressé de regagner son nid avant le crépuscule. Une troisième fois, il fit passer la baguette au-dessus du seau, la sentant vibrer entre ses doigts, mais néanmoins fasciné. Lorsque la brume s'éclaircit, il vit Tim dans l'eau, assis au chevet de Nell dans l'eau. Le bandeau était posé sur les yeux de sa mère. Tim dans l'eau le lui ôta, et une expression de joie incrédule illumina le visage de Nell dans l'eau. Elle serra Tim dans l'eau tout contre elle, et tous deux rirent de bon cœur. La brume obscurcit la vision une nouvelle fois, mais la baguette cessa de vibrer.
« Aussi inutile qu'un tas de poussière, » songea Tim,
et c'était la vérité. Quand la brume se fut dissipée, l'eau ne lui montra plus rien de miraculeux, hormis les derniers feux du couchant dans le ciel. Il fit passer la baguette au-dessus du seau à plusieurs reprises, mais plus rien ne se produisit. Ce n'était pas grave. Il savait ce qu'il devait faire. Tim se leva, se tourna vers sa maison et ne vit personne. Mais les volontaires censés monter la garde ne tarderaient pas à arriver. Il devait faire vite. Dans la grange, il demanda à Bitsy si elle avait envie de faire une nouvelle promenade nocturne.